samedi dernier les corps de 3 militaires congolais. Ces derniers ont été tués le 13 février dernier lors des accrochages entre les forces armées de la RDC et les éléments des forces de défense rwandaises à Sabinyo et Visoke en plein parc des Virunga. D'après l'armée congolaise, ces affrontements sont consécutifs à l'incursion de l'armée rwandaise sur le sol congolais le 13 février dernier. Quelle analyse faire de cette situation? Pour en parler, je reçois Maître Juvenal Munubo Mubi. Bonsoir.
Bonsoir, Monsieur Alain. Bonsoir à tous les auditeurs.
Vous êtes député national élu de Walikale au Nord Kivu, membre de la commission Défense et Sécurité et rapporteur de la sous-commission des forces armées à l'Assemblée nationale. Maître Omar Kavota, bonsoir.
Bonsoir, Monsieur Alain. Bonsoir à tous les auditeurs.
Merci, vous êtes coordonnateur et secrétaire exécutif de l'ONG Centre d'études pour la promotion de la paix, la démocratie et les droits de l'homme, CEPADO. Professeur Moïla Chiembe, bonsoir.
Bonsoir.
Merci, vous êtes directeur de l'Institut panafricain de géopolitique de Nancy en France. Notez que tous nos efforts pour avoir dans cette émission un officiel sont restés vains. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans votre émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
Les forces armées de la RDC se sont affrontées mardi dernier avec les soldats de la force de défense rwandaise. Ces incidents graves ont été signalés au pied du mont Visoke, en plein parc des Virunga, dans la région de Rutshuru, au Nord Kivu. Les deux armées s'accusent mutuellement d'avoir violé les limites frontalières qui séparent la RDC et le Rwanda. Une équipe d'experts de la CIRGL est sur le terrain depuis jeudi dernier pour enquêter. Gisèle Cage est en ligne depuis Goma pour nous apporter d'amples informations à ce sujet. Gisèle Cage, bonsoir.
Bonsoir Alain Hirung et bonsoir à tout le monde.
Comment expliquez-vous cet incident entre les FARDC et le Rwanda Defense Force?
D'après nos informations, depuis le 7 février dernier, les forces armées de la RDC avaient eu des informations faisant état de la présence de quelques éléments ex-AM-23 dans le parc national de Virunga, vers les limites frontalières entre le Rwanda et la RDC. L'armée s'est basée sur les données GPS prises par le drone de l'Institut congolais pour la conservation de la nature ICSN qui ont démontré la présence de trois campements tenus par des hommes armés situés entre 300, 200 et 125 mètres de la frontière dans le parc national des Virunga. C'est dans ce cadre que le secteur opérationnel Sokola 2 Nord Kivu a renforcé ses patrouilles dans la région entre la RDC et l'Ouganda d'une part et entre la RDC et le Rwanda d'autre part. D'après nos informations, alors que l'une des patrouilles militaires FARDC s'est rendue vers l'un des campements au pied du mont Visoke, dont la zone frontalière avec le Rwanda, elle aurait essuyé des tirs des soldats rwandais, déclenchant ainsi des affrontements pendant plusieurs heures. Selon le commandant secteur opérationnel Nord Kivu Sokola 2, le général Bruno Mandefou, ces hommes, à ce moment-là, ne savaient pas qu'ils étaient aux prises avec les soldats de la force de défense rwandaise, jusqu'à ce qu'un cessez-le-feu soit négocié par les responsables militaires rwandais à partir de Kigali.
Alors Gisèle, comment se présente la situation aujourd'hui dans la région?
Bon, une accalmie est observée dans la région depuis mercredi. Jeudi, une équipe d'experts du mécanisme conjoint de vérification de la CIRGL a quitté Goma pour le lieu de l'incident via le Rwanda afin d'enquêter. Déjà, le GMV a facilité samedi le rapatriement par le Rwandais de trois corps des FARDC sur le 6 tués lors de ces affrontements. Ces corps auraient été confisqués par le RDF, selon ce qu'a déclaré le général Bruno Mandefou lors de la conférence de presse organisée vendredi dernier à Goma. Le GMV, qui est déjà sur le terrain, devra donc établir qui de deux armées a violé les limites frontalières, car les deux forces se rejettent, en tout cas, la responsabilité de ce fait. Pour le Rwanda, l'armée nationale congolaise a attaqué ses soldats sur son territoire dans le district de Musanze, alors que les FARDC, qui ont présenté de preuves à la presse, notamment des photos prises par le drone de l'ICSN ainsi que les données géographiques, elles tiennent mordicus que ce sont les Rwandais qui ont pénétré sur le territoire congolais. Pour le GMV, s'il arrivait que l'un de deux pays soit reconnu coupable, il devra automatiquement retirer ses troupes de cette région.
Pour terminer, Gisèle, est-ce qu'il y a des mesures prises pour prévenir ce genre d'incident?
Il y a en tout cas un gros travail de délimitation des frontières voulu par l'Union africaine qui a été effectué par une commission mixte Rwanda-RDC de 2009 à 2017. C'était dans l'objectif justement d'éviter ces genres d'incidents. Aujourd'hui, au moins 22 bornes principales ont été remplacées, en plus de bornes intermédiaires et de direction sur une distance de 35 km au lieu de 200 km comme prévu. Mais à partir du mont Heu, jusqu'au sommet du mont Karisimbi, il n'y a pas encore de borne. Donc il y a juste une ligne droite qui sépare le Rwanda à la RDC. C'est donc une ligne qui est visible à l'œil nu. Pour les experts, le travail de démarcation doit être totalement terminé pour que ce genre d'incident ne se répète plus.
Merci Gisèle Kage, bonne soirée à Goma.
Merci, bonne soirée.
Maître Marc Kavota, vous êtes coordonnateur et secrétaire exécutif de l'ONG Centre d'études pour la promotion de la paix, la démocratie et les droits de l'homme, CEPADO. Vous êtes basé au Nord Kivu. Comment vous analysez cette situation, puisque ce n'est pas la première fois qu'une incursion de l'armée rwandaise est signalée?
Merci beaucoup, monsieur Alain Hironk. Je voudrais commencer, comme la tradition l'exige, par saluer les co-débatteurs, notamment l'honorable Juvenal Munubo et estimé confrère, mais également notre analyste politique, le professeur Tiembe. Et en réponse à votre question, je voudrais, avant de déduire quoi que ce soit, que je commence par revenir sur les faits. Il est bien que votre collègue, Madame Gisèle, est revenue sur certains points saillants en rapport avec les faits. Mais je voudrais préciser certains autres éléments qui n'ont pas pu ressortir par sa présentation. Donc, commencer par dire que l'incident de mardi 13 février courant est parti d'une alerte faite par l'ICCN. L'ICCN, c'est l'Institut congolais pour la conservation de la nature, donc qui gère et qui veille à la protection du parc national de Virunga. C'est l'ICCN qui a alerté le FARDC de la présence militaire, une présence de gens porteurs en armes avec des campements en plein parc national de Virunga, donc à plusieurs centaines de mètres de la frontière congolo-rwandaise. Et on a parlé d'entre 200 et 500 mètres où se situaient les camps. Donc, bien loin de la frontière entre les deux États. Et le FARDC n'a pas traîné les pieds. Il fallait qu'il vérifie et, effectivement, se rendre compte dans leur action de patrouille pour contre-vérifier ce que l'ICCN a dit. Il s'est dégagé que les faits étaient avérés. Mais vous avez suivi, Mme Gisèle l'a dit, c'est lorsque le FARDC était à patrouille en approchant l'un des campements qu'ils se sont vus tirer dessus par ces éléments qu'ils croyaient au départ être des éléments du M23, parce que vous ne perdez pas de vue que depuis l'année dernière, on avait des informations et même les États voisins l'avaient confirmé qu'il y a des centaines d'éléments du M23 qui avaient disparu de leur camp de regroupement et pour se volatiliser dans la nature. Et nous avions des informations que certains d'entre eux avaient franchi la frontière. Et donc, c'était tout à fait normal pour le FARDC de considérer qu'il y a une présence des ex-éléments du M23. Mais c'est lorsque les échanges se sont établis et à force de l'intensité de la puissance de feu de FARDC, à croire les généraux de FARDC, Bruno Mandevu dans son point de presse, que finalement, les FARDC ont eu à avoir l'ordre de leur hiérarchie, enfin l'ordre qui transitait du chargé de la sécurité, de renseignement des FARDC, parce qu'il était contacté par son homologue rwandais qui sollicitait ce seul fait, étant donné que ses forces étaient les forces de l'armée rwandaise, la RDF, était prise sous le feu de FARDC. Et le FARDC, respectant cet ordre, ont dit arrêter le feu, mais il y avait déjà des pertes considérables et ils avaient déjà repoussé à quelque sorte les militaires de l'armée rwandaise de ces cas qui étaient occupés et ces pertes-là ont été considérables. Mais, comme vous demandez, quelle est notre analyse? C'est ça la question qui paraît importante. En fait, lorsque vous examinez ce qui s'est passé, les FARDC pensent qu'ils sont, croient qu'ils sont en face des miliciens du M23, mais à force de l'intensité des combats, les RDF, donc les militaires de l'armée rwandaise, se trouvent pris en étau par l'armée congolaise, sollicitent un cessez-le-feu et ils s'identifient comme tels. Ce qui fait que les FARDC remarquent qu'ils sont en face de l'armée rwandaise. Qu'est-ce que devait venir faire l'armée rwandaise en Syrie? Parce que c'est en comprenant les motivations de l'armée rwandaise que nous pouvons arriver à se faire des déductions sur ce que cacherait pareille attitude.
Maître Kavota.
Oui.
Oui. Comment expliquez-vous que les affrontements se soient déroulés sur le sol congolais, comme le disent les FARDC, mais que ce soit les Rwandais qui rapatrient les corps des militaires congolais?
Mais cela relève effectivement de la stratégie qui n'est pas nouvelle des voisins, cette stratégie de ruse et de victimisation. Vous savez, après les affrontements, parce que ça aussi il faut préciser dans les faits, lorsque les FARDC ont reçu l'ordre de cesser le feu, parce que l'État voisin, et cela relevant de ce mécanisme de coopération entre les États membres de la CIRGL, et a reçu la demande du Rwanda, les FARDC ont quitté les terrains d'affrontement. Mais lorsque la RDF est venue prendre ses corps et ses blessés, c'est à ce moment-là que la RDF
Merci.
Reprend aussi les éléments les éléments tués des FARDC pour venir les présenter comme si et pour faire croire à quiconque veut l'attendre que ce sont eux. C'est le Rwanda en fait
Merci,
qui
maître.
Est la victime et c'est le Rwanda qui dispose de preuves à travers la présentation de ses corps.
Merci, maître.
Ce territoire a été violé et pour convaincre
Merci, maître.
Pour convaincre tout le monde, il a présenté
Merci, ses corps.
Donc c'est de la simulation, de
Merci,
la
maître Kavota.
Stratégie en fait de
victimisation
mais aussi des ruses que le Rwanda arrive
Merci,
à présenter ses
corps Merci maître Kavota. Merci maître, je vous redonne la parole tout à l'heure. Maître Juvenal Mounoubo-Moubi, vous êtes député national élu de Walikale, au Nord Kivu, membre de la commission défense et sécurité, rapporteur de la sous-commission des forces armées à l'Assemblée nationale. Comment vous expliquez cet incident?
D'abord, je voudrais, comme l'a fait le confrère Omar Kavota, les saluer. Saluer également les professeurs Mwaila Chiembe et tous les auditeurs encore une fois. Et merci pour l'invitation. Je regrette le fait que cette incursion n'est pas la première. Il y a déjà eu d'autres accrochages dans le passé, et je me dis que c'est vraiment regrettable. C'est vraiment regrettable. Ce que je regrette aussi, c'est le silence côté officiel. Vous l'avez relevé au début de cette émission, le mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba ne s'est pas exprimé. Les gouvernements... Je n'ai pas entendu une voix officielle du gouvernement. Ceux qui se sont exprimés, ce sont les militaires. C'est le général Bruno Mandefu, de l'opération Sokola 2 qui s'est exprimé. Donc les officiels, les autorités politiques ne se sont pas exprimés jusque-là, à ma connaissance, tant au niveau central qu'au niveau provincial. Je suis un peu surpris aussi de constater que la MONUSCO aussi ne s'exprime pas. Depuis que cet incident a été... je n'ai pas lu quelque part une communication officielle de la MONUSCO. Pourquoi? Parce que comme il y a deux sons discordants, il y a une version congolaise où le général de l'opération Sokola 2 dit qu'il a présenté même les coordonnées géographiques des campements, ainsi de suite... L'armée rwandaise aussi a fait un communiqué. On assiste là à une guerre de communiqués. Et il n'existe pas une voix médiane. On n'entend pas une voix médiane jusque-là. Ça serait la CIRGL. Ça serait la MONUSCO aussi, la MONUSCO qui est présente à l'est du Congo. Ce que je note, c'est que c'est une zone qui n'est pas vraiment contrôlée. Ça, c'est une leçon qu'on peut tirer. Parce que si, je parle des hypothèses pour revenir à ce que disait tout à l'heure mon confrère Kavota, si c'était des M23 qui étaient dans la zone, suivant l'indication de l'ICCN, pourquoi tous ces temps, on ne les avait pas encore démasqués? Parce que la chute du M23, ce n'est pas très récent. Elle n'est pas récente. Alors, pourquoi des éléments armés peuvent être conçus même des campements et que notre armée n'arrive pas à les démasquer? C'est une question. Une autre question, si ce sont des Rwandais, ils sont là depuis quand exactement?
Et ils font quoi?
C'est très dangereux qu'une armée étrangère se retrouve sur le sol congolais. D'autres questions. Comment se fait-il que les trois corps se sont retrouvés entre les mains des Rwandais? Lorsque les Rwandais disent qu'ils n'ont pas franchi la frontière. Où est-ce qu'ils les ont récupérés? C'est ça. Alors, lorsque le Congo dit que l'armée, le FARDC nie, n'avoir pas traversé de l'autre côté. Mais comment se fait-il que le Rwanda aurait quand même récupéré certains corps, les trois corps pour les rapatrier après? Bref, on est dans une confusion. Et moi, je me demande, est-ce que la conférence internationale de la région des Grands Lacs fait vraiment son travail? Je me demande tout ce qui a été fait dans le passé. Vous avez évoqué, c'est votre consoeur Gisèle Cage qui a évoqué les mécanismes conjoints de vérification des frontières. On avait même parlé des bornes frontières. Il y a même des drones. Alors, pourquoi on n'a pas de la lumière là-dessus? On est donc dans un questionnement, on est dans une confusion, et surtout que le gouvernement congolais ne communique pas encore jusqu'à là.
Alors, en parlant du mécanisme de cette structure, le mécanisme conjoint de vérification de la CIRGL, vous l'avez signalé, il y a eu plusieurs incursions dénoncées de l'armée rwandaise sur le sol congolais, mais on n'a jamais eu des conclusions par rapport à toutes ces situations.
Le travail lui-même de la commission n'est pas achevé. Vous avez suivi... c'est qu'a dit votre concert tout à l'heure.
Sur les 200 kilomètres, il n'y a que 35 kilomètres où il y a des bords.
Oui, mais qu'est-ce qui a bloqué le travail? Pourquoi on n'a pas finalisé ce travail pendant tout ce temps? Voilà. Ce sont des interrogations. On est dans un domaine où on se pose des questions qui ne sont pas répondues.
Alors,
c'est pour cela que j'ai dit que je ne pourrais pas m'avancer parce que c'est vraiment flou.
Alors, vous dénoncez cette opacité, maître Juvenal Munubo, que ce soit du côté du mécanisme conjoint, que ce soit du côté du gouvernement congolais, du gouvernement rwandais, y aurait-il des choses à cacher entre les deux gouvernements qui évitent de s'offusquer l'un à l'autre?
Quand il y a l'opacité, je me dis, il doit y avoir quelque chose. Je ne sais pas laquelle exactement. Je me réserve d'émettre trop d'hypothèses là-dessus. La présence de l'armée rwandaise ici, l'histoire de la présence de l'armée rwandaise ici, elle est assez longue, non? On sait que l'armée rwandaise était ici pendant plusieurs années, de manière officielle, pendant 5 ans, la deuxième guerre de 98. Et là, le prétexte, c'était quoi? C'était, voilà, il y a des FDLR. Mais je crois qu'il faut considérer avec l'État, est-ce que les FDLR constituent toujours une menace sérieuse sur la sécurité du Rwanda? Est-ce que la menace FDLR ne s'est pas réduite avec le temps? Parce qu'il y a eu plusieurs opérations qui ont été menées quand même contre les FDLR. Mais nous savons aussi qu'il n'y avait pas que les FDLR. Il y a la piste minière aussi, l'exploitation des ressources du Congo. Vous avez lu peut-être au début des années 2000 les rapports Kassem sur le pillage des ressources naturelles du Congo. Alors, je ne suis pas un juge, parce que la matière ici, que ce soit les coordonnées géographiques du général, ce qu'il a présenté, les corps que le Rwanda a ramené à rapatrier. En fait, il y a des éléments...
Et on ne parle pas des victimes du côté rwandais.
On ne parle pas des victimes du côté rwandais. On a beaucoup d'éléments dont un juge aurait besoin. Un juge international, les juges des États, les juges de la Cour internationale de justice. Alors, pourquoi les officiels ne s'expriment pas? Est-ce qu'il n'y a pas, il y aurait pas une idée? Moi, je pense que dans une situation comme celle-ci, il faut saisir la Cour internationale de justice pour départager les partis.
Merci, maître. Professeur Moïla Chiembe, vous êtes directeur de l'Institut panafricain de géopolitique de Nancy en France. Vous avez suivi la série des questions relevées par maître Juvenal Munubo, mais qui malheureusement restent sans réponse. Comment vous analysez cette situation?
Mais je pense que la situation telle qu'elle est présentée ici est d'une certaine gravité si on peut l'aborder du point de vue de la géostratégie. Je m'explique. Cette gravité est liée d'une part au fait que d'après les informations que vous traduisez ou qui ont été rendues publiques, il y a au moins 3 soldats congolais morts les armes à la main sur le territoire national à la suite de l'acte mené par une armée étrangère à la République démocratique du Congo. Donc, il s'agit d'un affrontement militaire voulu ou non voulu par les FARDC face à une réaction ou à une action préalable d'une armée étrangère. Même si au départ, d'après les explications qui ont été données, les FARDC ne savaient pas qu'il s'agit d'une armée extérieure, ils pensaient peut-être au FDLR ou éventuellement à d'autres groupes armés qui écument cette région. Alors, pourquoi cette gravité ? Cette gravité est liée à la spécificité même de la République démocratique du Congo en tant qu'État. Dois-je rappeler ici que depuis la création de l'EIC, l'État indépendant du Congo, en 1885, le dénominateur commun de l'identité souveraine, de l'identité nationale, c'est le territoire. Les Congolais sont divers par la culture. Il y a autant de cultures dans ce pays qu'il y en a dans toute l'Afrique. Par la langue, les Congolais sont divers. Par la religion, les Congolais sont divers. Par la communauté, la tribu ou les communautés de destin, les Congolais sont divers. Qu'est-ce qui fait l'unité des Congolais sur le territoire? C'est la frontière. Donc, les événements dont nous venons de parler touchent à ce que les Congolais ont des frontières, ce qui fait leur unité. De par-delà, leur diversité sur les composantes que je viens d'indiquer. Et si nous revoyons les éléments constitutifs de l'État au sens de Ratzel, c'est-à-dire le fondement de la géographie politique, c'est le territoire qui produit l'État et qui produit la population. Alors, quiconque touche au territoire, à la frontière, touche le cœur du peuple congolais et de son fondement même existentiel. Et à partir de là, la frontière prise au sens du droit n'est que la ligne de démarcation entre souverainetés. Et les Africains, Rwandais, Congolais, savent qu'il existe le principe de l'intangibilité des frontières, c'est-à-dire le principe qui a été posé d'abord par les pays latino-américains qui se sont décolonisés avant, intégrés par les Nations Unies et par l'unité africaine naguère dans une conférence du Caire, pour dire quoi? Pour dire que les frontières des États héritées de la colonisation, aucun État n'a qualité, même par l'usage de la force, de les modifier, sauf s'il y a un consentement mutuel des États. Donc par conséquent, ces événements politiques qui pour l'instant ne portent que sur la question de savoir si les soldats rwandais étaient sur le territoire du Rwanda dans ce parc ou s'ils avaient dépassé, et c'est une question qui demande, puisqu'il y a, si j'ai bien compris, ces mécanismes conjoints de vérification des CIRGL qui est chargé de dire aux deux gouvernements et à leurs armées et qui a dépassé
Professeur.
La frontière et qui ne l'a pas dépassé, et si éventuellement il y a des torts, puisqu'il y a mort d'homme, qu'est-ce qu'on
Professeur.
Peut faire au meilleur des intérêts des deux pays? Et c'est probablement dans cette direction qu'il faut tourner nos regards et nos analyses.
Professeur, mais comment vous analysez cette situation en ce moment où le président rwandais Paul Kagame est président de l'Union africaine? On suppose que le Rwanda et la RDC ont quand même des mécanismes diplomatiques avant d'en arriver aux armes.
Ben, c'est probablement, vous savez, il y a déjà eu des problèmes entre la RDC et le Rwanda sur la même frontière. Sur la question de l'identification de lignes de démarcation. Il est plausible, sauf si on a d'autres informations, s'il n'y a pas volonté de nuire, c'est probablement une erreur qui aurait été liée à l'absence ou à tout le moins à l'invisibilité des poteaux de démarcation. Soit il y en a, soit il n'y en a pas, soit il y a des lignes tracées, Et c'est probablement cette commission d'investigation de CIGL qui pourrait mettre tout le monde d'accord pour savoir si c'est une erreur liée à l'absence de démarcation. Parce que vous savez, en matière de frontières, au-delà de l'existence de la frontière juridique, il faut tracer la frontière au sol, ce qu'on appelle la démarcation. Alors, est-ce que à l'endroit où les incidents ont eu lieu, y a-t-il un poteau, une ligne de démarcation claire? S'il y en a, alors quelle est la responsabilité des forces armées rwandaises? Pourquoi ont-elles dépassé? Est-ce qu'elles ne savaient pas?
Professeur,
ont-elles fait sciemment? Pour l'instant, on n'a pas de réponse.
Professeur, comment vous expliquez le silence tant du côté des officiels congolais que rwandais, ainsi que du mécanisme conjoint de suivi?
On peut l'expliquer par la perplexité de la situation. Le président Kagame, vous venez de le rappeler, est à la tête de l'Union africaine. C'est probablement une des personnalités qui fait voir une certaine vision de l'Afrique, une certaine respectabilité. Il a redressé son pays. Il est considéré par le dirigeant qui gère le mieux un petit pays qui n'a pas assez de moyens. Donc, il y a là une certaine crédibilité internationale sur sa personne et sur son pays. Alors, si c'est ce pays-là qui aujourd'hui est vénéré, admiré, pour dire les choses simplement, qui porterait atteinte à la souveraineté de l'autre pays, vous comprenez bien le gène.
Merci.
Et puis du côté congolais, après tout, on connaît les guerres qu'on a connues entre les deux pays, on connaît les ruptures de relations diplomatiques.
Merci,
on connaît
professeur.
Les assauts enfin, on ne peut pas expliquer la situation à partir de ce moment, soyons peut-être plus vigilants.
Merci, professeur.
Pour ne pas envenimer la situation en disant des choses qui ne sont pas exactes en attendant de savoir de quoi demain sera fait.
Merci, professeur. Maître Marc Avota, il y a pour vous cette réflexion que nous allons suivre.
Ikiri Chomba de Bukavu au Sud Kivu. À mon avis, soit le gouvernement congolais est complice, ou encore soit il est complexé devant le Rwanda. Pour moi, cet acte est non seulement un mépris, mais aussi un sabotage du Rwanda vis-à-vis de la dignité du peuple congolais. Je n'arrive pas à comprendre ce silence radieux du pouvoir de Kinshasa pendant qu'il y a eu une incursion de l'armée rwandaise sur le sol congolais. Voilà au moins un acte qui mérite la réciprocité, et non cet acharnement sur la Belgique qui avait pris une décision souveraine de réorienter son aide humanitaire. Pour justifier sa réaction épidermique, Kinshasa avait brandi sa souveraineté. Où est donc passée cette souveraineté qu'on chante à longueur de la journée? N'est-ce pas là une complicité? Le peuple congolais doit se battre pour sa dignité, mais aussi pour faire échec à ce plan de balkanisation qui est en train de se concrétiser petit à petit sous l'impuissance du gouvernement congolais.
Maître Kavota, que répondez-vous à cet auditeur?
Alors, l'auditeur croit que ce silence des autorités congolaises traduirait si pas la complicité ou alors que notre État est complexé et tout ça. Moi, je pense que le silence des officiels des deux côtés et même le silence des Nations Unies représentées par la MONUSCO, je tente de croire que ce silence peut traduire le respect mutuel entre les deux États, si bien que l'un ou l'autre ne veut pas froisser par ses déclarations un État voisin, non seulement un État voisin, mais un État faisant partie de la même organisation internationale, la CIRGL ou l'Union africaine. Soit il y a méfiance. Quand on se méfie, bon, on banalise et on ne veut même pas donner l'importance par des déclarations sur ce que l'autre fait, que ce soit du mal ou pas. Ou encore, au secret, par la peur, l'un ou l'autre ne veut pas être celui qui provoque et on peut assister à cette attitude. La MONUSCO ou les Nations Unies jouent peut-être à la prudence, mais pas paraître que ce sont eux qui sont les pyromanes ou qui incitent l'un ou l'autre État à réagir. Mais lorsque je vois l'attitude du gouvernement, l'attitude du Rwanda par rapport à ce qui se passe ici, moi je prends plutôt en évidence l'enjeu. Et l'enjeu ici, nous qui suivons de près la politique de la région des Grands Lacs, nous avons compris que certains États, les stars du Rwanda, joue à la politique du fait accompli pour obliger la communauté internationale à considérer que ce sont les autres qui les provoquent, ou à se présenter comme les victimes. Et dans le cas d'espèce, vous savez que ce qui arrive pendant que les experts de la commission mixte pour la matérialisation de la frontière entre la RDC et le Rwanda étaient à pied d'œuvre. Il y avait 22 bornes qui avaient déjà été construites, qui devaient être placées d'ici quelques jours, de matérialiser ou de marquer la frontière entre la RDC et le Rwanda. Mais vous trouvez que avant que le bord ne soit fixé, le Rwanda fait des incursions, il place ses militaires à plusieurs mètres avancés de la RDC, une façon peut-être de chercher à pouvoir, dans la mesure du possible, essayer de voir si elle peut dérouter la commission pour qu'elle constate, présente que la partie qui est déjà occupée lui est défaite. Et donc, ce sont des stratagèmes, ce sont des manières de faire du Rwanda. Je pense que ça doit être dénoncé. Et nous devons dénoncer, comme l'a dit l'honorable Juvenal, l'attitude non seulement des officiels congolais et rwandais, mais aussi de la CIRGL à travers le mécanisme conjoint de vérification. Merci. Vous savez qu'il était prévu, vous avez même Gisèle l'a dit à l'introduction de l'émission, il était prévu aujourd'hui que le mécanisme conjoint de vérification se retrouve sur le lieu où les incidents se sont produits pour établir les responsabilités. Mais nous ne comprenons pas à dernière minute comment,
alors
que les journalistes étaient d'ailleurs déjà déployés sur place pour essayer de voir devant témoins comment le mécanisme va procéder par enquête et
quelle
sera sa conclusion. Mais on a réalisé que à dernière minute,
on n'a toujours pas les conclusions. Merci, Maître Kavota. Merci, Maître Kavota. Souffrez que je vous arrête à ce niveau. Maître Juvenal Mounoubo Moubi, il y a pour vous cette autre réflexion que nous allons suivre.
Claudie Tamboy, à partir de Goma, de Nord Kivu. Je me pose la question, pourquoi toujours l'Est de la RDC qui est toujours menacé, tantôt par l'armée rwandaise et l'armée ougandaise, ayant un silence radio de la part de notre gouvernement, de l'Union africaine et de la communauté internationale pour ces agressions à répétition, quelques semaines après que Paul Kagame est à la tête de l'Union africaine. Je pense que les Rwandais, l'Ougandais et certaines mains noires de l'Occident, à complicité avec certains acteurs politiques, militaires, veulent exécuter ces triangles, agression, balkanisation et prédation.
Voilà, vous avez presque évoqué les mêmes éléments, honorable Mounoubo, mais par rapport à la question de Paul Kagame, président de l'Union africaine, professeur Moïla Tshiembé a rappelé la question de le principe de l'intangibilité des frontières. Le Rwanda, visiblement, n'en fait rien.
Tout à fait, c'est un sacro-saint principe dans les relations entre les États au niveau de l'Union africaine que les frontières héritées de la colonisation doivent rester intangibles. Donc on ne doit pas refaire la conférence de Berlin, c'est ce que ça veut dire. Les frontières, l'Afrique a déjà été partagée à Berlin et qu'il ne revient pas de répartager l'Afrique. Mais ce principe-là, cher à l'Union africaine, n'est pas respecté. Et maintenant, on a un problème avec un pays dont le président est président en exercice de l'Union africaine. Et donc, quelle coïncidence ? Alors, si c'est pas une heureuse coïncidence, c'est là. Est-ce que c'est une coïncidence ? Voilà autant de questions que moi je me pose. Et puis, ça n'augure pas un mandat intéressant, quoi. Parce que c'est des choses qu'il faut éviter. Je suis pas très d'accord avec mon confrère Kavota lorsqu'il évoque la piste de l'hypothèse des respects mutuels. Moi, je crois qu'il n'y a pas respect mutuel lorsque votre voisin vous agresse. Un pays qui agresse un autre, on ne peut pas évoquer, il y a mort d'homme, des militaires qui meurent. Il n'y a pas moyen d'évoquer le respect là-dessus. On peut penser à autre chose, peut-être une faiblesse sur le plan diplomatique, une lenteur en termes de réaction. Moi, je crois qu'on devrait assister à une réaction beaucoup plus grande que la seule réaction des FRDC. Et de là, ça nous pousse aussi à nous poser la question, quel est l'état actuel des relations avec le Rwanda? Est-ce que nous avons de bonnes relations sur le plan diplomatique? Est-ce que nous avons des relations plutôt hypocrites ou de peur mutuelle ou de méfiance? Il faut qu'on arrive à définir quel type de relations nous entretenons avec le Rwanda. Voilà autant de questions. Il y a les instruments juridiques qui sont violés ici par ces gestes. Il y a le pacte de Nairobi qui est le pacte sur la sécurité, la stabilité, le développement dans les Grands Lacs. Son article 5 est violé par ce qui vient de se passer. Pourquoi ? Parce qu'il y a un protocole sur la non-agression et la défense mutuelle. Il y a l'accord cadre sur la paix et la coopération pour la RDC pour la région du 24 février 2013 qui est violé. Parce que parmi les engagements pour la région, il y a le respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale des États voisins. Il y a ces instruments qui sont violés. Il y a la charte, l'acte constitutif de l'Union africaine aussi. Et donc moi je crois qu'on devrait se mobiliser. Si on était en session parlementaire, moi j'allais proposer au niveau de la commission que le ministre de la Défense soit auditionné. Dommage qu'on ait en vacances parlementaires, mais au retour des vacances, on devra bien écouter le ministre de la Défense sur cette question.
Professeur Moïla Chiembe, nous allons prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kananga.
Particulièrement à partir de Kananga au Kasaï central. Cette situation me pousse à poser certaines questions dont les réponses pourront éclairer le public congolais qui en a marre de ces tueries à l'est du pays. 1. Comment les militaires rwandais peuvent se retrouver sur le sol congolais sans être inquiétés ou repérés à nos frontières? Où étaient nos services de renseignement? 2. Pourquoi seulement choisir le parc des Virunga? Y a-t-il un intérêt caché? 3. Si réellement il y a eu des confusions des frontières, pourquoi les Rwandais privilégient les armes et la diplomatie pour résoudre ces problèmes? 4. Y a-t-il vraiment une bonne collaboration entre le Rwanda et la RDC sur le plan diplomatique? 5. Qu'est-ce que ces militaires rwandais cherchaient en plein parc des Virunga? Est-ce là une tentative de balkanisation?
Voilà, je rappelle que tous nos efforts pour avoir un officiel dans cette émission sont restés vains. Et donc, professeur Moïla Chiembe, on comprendra qu'il y a des questions auxquelles vous ne saurez pas répondre, du moins sur la partie diplomatique. L'honorable Mounoubo est revenu là-dessus. Quelles sont les relations en ce moment entre la RDC et le Rwanda?
Pour peu que nous puissions savoir ce qu'on peut lire, ce qu'on entend et ce qu'on voit, les images de télévision, etc., à tort ou à raison, on peut dire que la République démocratique du Congo officiellement entretient de bonnes relations avec le Rwanda depuis que les relations diplomatiques entre les deux pays ont été rétablies. Et notre ami de Kananga s'interrogeait sur le repérage. Est-ce que, pourquoi les RDC n'ont pas repéré, d'après les informations qui ont été données, notamment par le général chargé des opérations, il semblerait que les RDC avaient repéré la présence de ces troupes sans savoir au préalable d'où elles venaient et quelle était leur identification précise. Peut-être l'Est de l'Air, les Maïna ou d'autres groupes qui étaient de ce coin. Donc, le repérage avait eu lieu, mais probablement il n'y avait pas encore d'identification précise. Pourquoi le parc de Virunga? Mais le parc de Virunga est un territoire commun à ces trois pays. Donc, c'est une aire protégée qui jouxte les trois pays, c'est-à-dire la RDC, le Rwanda et l'Ouganda, naturellement. Donc c'est un parc qui appartient en même temps à ces trois pays. Donc c'est à la fois le territoire de la RDC, mais en partie, et une autre partie revient au Rwanda et une autre partie à l'Ouganda. Donc le parc en lui-même, c'est à la fois un espace protégé de ces trois pays et leurs frontières communes.
Professeur.
Alors, pourquoi la réaction par les armes? On ne le saura jamais. Est-ce que les militaires rwandais ont ouvert le feu consciemment en vue de tester éventuellement la capacité de résistance des RDC? Nul ne sait. L'ont-ils fait par ignorance? Peut-être l'enquête de Sirigel dira exactement ce qu'il en est.
Professeur.
Pour l'instant, on n'a pas de réponse, évidemment.
Professeur, est-ce que cette situation ne remet pas sur la table la question, la problématique de la porosité des frontières de la RDC?
Au-delà de la porosité, parce que ce n'est pas seulement une spécificité congolaise, vous savez, les frontières de la quasi-totalité des pays africains, pour ne pas parler des pays du monde, ce sont des frontières soit artificielles, soit naturelles. Mais lorsque vous voyez l'espace congolais, 2 345 000 km², 9 frontières avec des pays étrangers, 4 polarités,
la République démocratique du Congo, c'est à la fois un pays de l'Afrique centrale, un pays de la région de Grand Lac, un pays de l'Afrique australe et un pays du Golfe de Guinée. Pour maintenir 2 345 000 km², il faut avoir une puissance militaire du genre des États-Unis ou de la Russie, voire de la Chine. Ce que le Congo n'a pas, hélas, pour l'instant. Donc, par conséquent, il y a ce qui est possible, c'est-à-dire comment un grand pays, géographiquement parlant, avec peu de moyens, avec une armée qu'on est en train de reconstruire, vous connaissez l'histoire de la République démocratique du Congo avec ses 20 ans de guerre, on est encore dans les balbutiements, dans la réforme de l'armée, dans les moyens, on n'a pas encore un instrument, une capacité de sécurité et de défense capable aujourd'hui de faire peur au Rwanda. C'est ça la réalité. Alors lorsqu'on regarde cette question du point de vue de la géostratégie, comme je disais tout à l'heure, qui veut la paix que par la guerre.
Alors en guise de conclusion, professeur,
la solution pérenne, ce n'est probablement pas dans l'immédiat, oui, il faut s'en tenir à cette commission d'enquête, mais pour la durée, c'est-à-dire d'ici quelques années, il va falloir demander au gouvernement de la République démocratique du Congo de se faire violence.
Merci,
pour
professeur.
Adopter une stratégie de sécurité des territoires spécifiques, voire des espaces vitaux.
Merci, professeur.
C'est-à-dire
merci,
des
professeur
espaces
Moïla.
Minéraux,
merci,
des
professeur.
Espaces de biodiversité.
Merci, professeur. Souffrez que je vous arrête à ce niveau. L'émission est en train de se terminer. Honorable Mounoubo, devant le non-respect des textes internationaux régissant les États, le non-respect des principes diplomatiques, la faiblesse du mécanisme conjoint de vérification, que faire pour prévenir ce genre d'incident, guise de conclusion?
En fait, je crois que l'Assemblée nationale doit se réveiller, parce que j'en suis membre, la commission de défense, nous devons faire plus que ce que nous faisons, en fait. Il faut,
concrètement, ça passe par
concrètement, il y a l'audition du ministre de la Défense, audition même du premier ministre, pourquoi pas, chef du gouvernement. Il faut qu'on nous dise et qu'il réponde à toutes ces questions qui ont été posées au cours de cette émission. Et dommage qu'on n'ait pas en session parlementaire, mais c'est pas pour longtemps, dans quelques semaines, on devra bien amener les officiels du gouvernement à s'exprimer sur cette question. Ça ne peut pas passer comme ça. Autre chose, il faut que la commission mixte de vérification, puis ce mécanisme conjoint de vérification, produise vite son rapport. Parce que plus le temps passe, plus il y aura de la méfiance, peut-être qui va monter. Et il faut qu'elle arrive à clarifier qui a agressé l'autre. C'est très important. Il faut que la commission mixte et l'autre pour la démarcation
parachève
son travail. Ça peut pas rester en chantier. Il faudrait qu'on arrive à clarifier les relations que nous entretenons avec le Rwanda, parce qu'on ne peut pas continuer dans une hypocrisie continuelle. Et s'il y a des faits avérés, si on a des preuves qu'on peut amener chez un juge, pourquoi ne pas saisir la Cour internationale de justice? Parce qu'il faut qu'on se respecte. Et nous et eux, les Rwandais, on a signé un certain nombre d'instruments juridiques. Et ces instruments juridiques doivent être respectés. Là, je parle comme un juriste.
Et le professeur Moïla a estimé que la RDC devrait se doter d'une capacité supérieure de
absolument
défense.
Et là, c'est la question toujours non résolue de la réforme du secteur de sécurité. On n'y met pas assez de moyens, il n'y a pas assez de volonté, il n'y a pas assez de vision. Nous devons savoir, nous voulons quel type d'armée. Est-ce que c'est une armée qui répondra toujours en défensive? Il nous faut une armée qui protège les intérêts du Congo à l'intérieur de ses frontières et même à l'extérieur de ses frontières. Mais on est loin d'avoir ce système de défense pour le moment.
Maître Omar Kavota, en guise de conclusion, en un mot pour vous, que faut-il pour prévenir ce genre d'incident?
Je sais que le président rwandais Paul Kagame était panafricain et j'en appelle à sa sagesse. À ce jour où il préside à la destinée de l'Union africaine, il ne faudrait pas que les tensions entre États africains viennent de chez lui. Et je voudrais effectivement demander au mécanisme de projet de vérification et se prononcer pour que les gens ne perdent pas la confiance à la CIRG. Et
merci.
Que les autorités congolaises, effectivement, se prononcent afin de rassurer l'opinion.
Merci. C'est par vous que nous terminons cette émission. Merci de votre attention, mesdames et messieurs. Bonne suite des programmes sur la radio de la paix. Au revoir.